Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu, au chapitre 2, le verset 15. Et nous allons poursuivre du coup notre étude de cet évangile qui nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile que l'Esprit de Dieu a conduit Matthieu, l'apôtre, à écrire pour nous. Nous lisons le verset 15. Peut-être prenons à partir du verset 14 pour un peu de contexte. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Prions encore ensemble. Nous t'invoquons, notre Dieu, nous faisons appel à toi parce que nous sommes si dépendants de toi pour être enseignés d'une manière à nous rendre semblables à ton Fils Jésus, à nous transformer de façon à ce que nous soyons plus capables de faire ta volonté, qui est bonne et juste. Nous avons aussi besoin de ton aide, de l'esprit que tu accordes à ceux qui t'appellent. Cet esprit qui nous révèle ton Fils Jésus, lui le Sauveur des pécheurs, lui le Seigneur de nos âmes. Père, j'ai besoin de ton aide aussi pour prêcher d'une manière claire et utile. Alors agis, s'il te plaît, et que tu prennes pitié de notre condition si facilement distraite. Tu prennes pitié de moi et de ma langue si facilement confuse. Et que nous puissions nous réjouir du festin de tes vérités, de ta sagesse, de la manière dont tu conduis le monde et l'histoire du salut. Que nous puissions mieux connaître ton Fils Jésus et ce que tu as pour nous en lui. Entends-nous, Père, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, si vous vous souvenez, pas la semaine dernière, mais il y a, je crois, du coup, 2 semaines, nous avons parlé du nouvel exode. Nous avons comparé 2 exodes. L'ancien, celui du peuple d'Israël, et le nouveau exode réalisé par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il fuit en Égypte pour se réfugier loin du tyran Hérode, et il sort d'Égypte. Et ainsi, nous dit le prophète, s'accomplit la parole, plutôt nous dit Matthieu, cette parole prononcée par Osée, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Ce matin, nous allons encore faire une comparaison, non plus cette fois-ci entre 2 exodes, mais entre 2 fils. Si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avions juste mentionné en passant que la prophétie à laquelle Matthieu fait référence ici, cette prophétie prononcée plusieurs siècles avant la naissance de Jésus, est prononcée au sujet d'Israël. C'est d'abord Israël qui est appelé « mon fils » par Dieu, avant que le Christ ne vienne. Il y a, je pense, un grand intérêt à nous arrêter là-dessus, et l'intérêt, je crois, est le suivant, au minimum. Le fait de connaître mieux ce Jésus que nous aimons. Pourquoi ? Parce que en comprenant mieux ce que signifiait pour Israël d'être fils de Dieu, nous comprendrons davantage la personne de Christ et son œuvre en tant que nouveau fils de Dieu. Et l'autre avantage, l'autre intérêt, la pertinence pour nous qui sommes chrétiens, et pour vous qui ne l'êtes pas ce matin, c'est de comprendre ce que signifie pour les humains de devenir enfants de Dieu, de devenir fils de Dieu au travers de leur relation avec le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Ce matin, nous ne verrons que la première partie, c'est-à-dire Israël, l'ancien fils de Dieu. Et Dieu voulant, une prochaine fois, nous verrons plus précisément ce que cela implique concernant Jésus. La première mention, ou plutôt je vous pose la question, est-ce que vous savez où se trouve la première mention d'Israël comme fils de Dieu? À quel endroit nous trouvons dans les Écritures saintes, pour la première fois, cette expression employée pour désigner le peuple d'Israël? C'est bien avant le prophète Osée. Et si vous voulez tourner avec moi dans vos Bibles et trouver le livre de l'Exode, au chapitre 4. Exode, chapitre 4, et nous lirons les versets 22 et 23. Ce matin, je le dis d'avance, nous aurons plusieurs lectures, nous aurons probablement une dizaine même de lectures, mais le message ne sera pas forcément plus long que d'habitude, mais je crois que c'est utile de bien nous imprégner de ce que les Écritures enseignent concernant le rôle que devait avoir Israël. Lisons les versets 22 et 23. Tu diras au Pharaon, c'est donc Dieu qui s'adresse à Moïse, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Quel était le contexte de cette mission que l'Éternel a donnée ici à Moïse? Vous le connaissez pour la plupart. Voilà près de 400 ans qu'Israël, le peuple d'Israël, est soumis à un rude esclavage en Égypte. Dieu l'avait annoncé à leur ancêtre Abraham. On peut lire ce récit, le récit de cette annonce dans Genèse au chapitre 15, les versets 12 à 21. Mais Dieu n'avait pas simplement annoncé qu'Israël serait soumis à l'esclavage en Égypte, mais il avait aussi promis de délivrer Israël. Cette délivrance devait aboutir à au moins trois choses. Les trois suivantes. La première, une relation. La seconde, un héritage. Et la troisième, une responsabilité. D'abord, la relation entre Dieu et Israël, les descendants d'Abraham, qui devait souvent, nous le voyons dans l'Ancien Testament, être résumée par l'expression suivante. « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ainsi, Dieu prenait, choisissait Israël du sein des nations du monde et en faisait, on peut dire, sa nation adoptée, sa nation particulière, une relation. Mais il y avait aussi donc cette notion d'héritage qui accompagnait cette relation. Quel héritage? Eh bien d'abord, vous le savez, le territoire d'Israël, le pays de Canaan, la terre promise. Dieu promettait de donner à cette nation un peu nomade un endroit dans lequel il pourrait habiter et être en communion avec Dieu. Un endroit où Dieu habiterait au milieu de son peuple. Mais cet héritage de la terre était aussi attaché à d'autres bénédictions temporelles et spirituelles, notamment de bonnes récoltes, des protections contre les nations ennemies, mais aussi des bénédictions spirituelles. La possibilité de s'approcher du Dieu vivant et d'entendre les oracles de Dieu, la parole de Dieu qui nous fait connaître l'Éternel et nous fait connaître le chemin du salut. Relation, héritage, et enfin, responsabilité. La délivrance d'Égypte devait aboutir aussi à une responsabilité qui était un privilège même. Quelle était cette responsabilité? Eh bien, le fait de servir Dieu, l'obéissance envers Dieu. Le peuple devait vivre selon les standards moraux de Dieu, selon les exigences divines. Et la logique, c'est un peu celle d'un père qui instruit son fils concernant la manière dont son fils doit l'honorer et lui ressembler. Ainsi, Dieu faisait connaître ses commandements à Israël afin qu'Israël soit saint comme Dieu lui-même est saint. Comme Dieu est juste, Israël devait être juste. Comme Dieu est compatissant, miséricordieux, les relations dans le peuple devaient être marquées par la miséricorde et la compassion. Et avec cette responsabilité venait aussi le rôle d'être un modèle pour les nations autour, une lumière pour les peuples qui ne connaissaient pas Dieu. En voyant Israël dans sa relation avec l'Éternel, les peuples devaient apprendre de quelle manière est-ce qu'on s'approche du Dieu vivant, du Dieu saint, d'une manière bien différente des religions idolâtres, des faux cultes qui, bien souvent, et même systématiquement, ce sont les hommes qui imposent quelque part leurs exigences et leurs fantaisies sur la divinité, là où la relation avec le Dieu vivant, nous recevons de lui sa révélation. Cette obéissance était la condition sine qua non, la condition indispensable pour garantir la relation, l'héritage aussi. Maintenant, ce que je viens d'énumérer, la relation, l'héritage, la responsabilité, nous voyons tout cela comme un peu condensé, résumé dans le passage de l'Exode que nous avons lu. Regardez avec moi, d'abord verset 22. « Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, Israël, mon fils. » Nous voyons là un renvoi à la relation. Israël est adopté dans la communion avec Dieu. Encore le verset 22, nous voyons que Dieu appelle Israël aussi « mon premier-né ». Notion indirecte mais claire à l'héritage. Pour ceux qui le savent, ou pour ceux qui ne le savent pas, au Moyen-Orient, à cette époque en particulier, le fils aîné recevait une double part de l'héritage par rapport au reste de la fratrie. La raison était la suivante, une des raisons en tout cas, c'était que le fils aîné devait assumer une responsabilité plus grande puisqu'il était appelé à remplacer ensuite le père dans le rôle de chef de famille. Et il lui fallait donc des conditions qui le rendent à même d'exercer ses responsabilités. Mon premier-né. Puis, verset 23, après la relation, après l'héritage, nous voyons la responsabilité. Quel est le but de la délivrance? Pourquoi est-ce qu'il faut que le Pharaon laisse partir le Fils de Dieu, Israël, pour qu'il me serve? La responsabilité. Pour toutes ces raisons, donc, Israël, dans l'Ancienne Alliance, était au cœur du projet de Dieu. Souvenez-vous la promesse faite à Abraham, « Par ta descendance, toutes les familles du monde seront bénies. » Et de nombreux passages de la parole de Dieu soulignent que c'est à partir d'Israël que Dieu voulait répandre la connaissance de son nom, la connaissance de sa loi, la connaissance de son salut. Et nous arrivons là à la partie où nous allons enchaîner plusieurs lectures. Et pour ceux qui le peuvent, je vous invite à suivre avec moi. Je vous laisserai le temps de trouver les passages. Ceux qui préfèrent simplement écouter, écoutez simplement. Deutéronome, chapitre 4, versets 5 à 9. Tous ces passages, pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'on les lit, tous ces passages soulignent la spécificité du rôle d'Israël en tant que fils de Dieu, en tant que nation choisie par Dieu du milieu des nations. Deutéronome 4, versets 5 à 9. Moïse s'adresse à la fin de son ministère au peuple d'Israël et lui dit ceci, « Voyez, je vous ai enseigné des prescriptions et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez bien en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions et diront, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches d'elle que l'Éternel, notre Dieu, l'aide-nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui a des prescriptions et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? On peut même arrêter la lecture ici. Et donc nous voyons là ici l'aspect de la responsabilité, n'est-ce pas? Être une lumière pour les peuples autour, afin que les peuples soient attirés au Dieu vivant, à l'Éternel. Psaume 147, versets 19 et 20, notre prochaine lecture, où il nous est souligné que Dieu a fait quelque chose envers Israël qu'il n'a pas fait pour les autres peuples, à cette époque, en tout cas, avant la venue du Christ. Versets 19 et 20 du psaume 147. Il révèle ses paroles à Jacob, ses prescriptions et ses ordonnances à Israël. Écoutez bien la suite. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent pas ses ordonnances. Louez l'Éternel. Nous faisons maintenant un bond dans le Nouveau Testament parce que j'aimerais vous montrer que ce n'est pas seulement quelque chose qui était souligné dans l'Ancienne Alliance avant la venue du Seigneur, mais que Christ lui-même, dans son ministère, a rappelé plusieurs fois la priorité chronologique d'Israël dans la relation avec Dieu. Jean chapitre 4, versets 19 à 22. Ici, c'est cette fameuse discussion, ce célèbre entretien entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Voilà qu'ils se retrouvent autour d'un puits et qu'une discussion s'engage, une discussion d'ordre spirituel. D'ailleurs, cette discussion commence par un quiproquo, parce que Jésus veut amener cette femme à penser aux choses d'en haut, et elle pense d'abord aux choses d'en bas. Et petit à petit, le Seigneur l'amène à comprendre un certain nombre de choses. Et nous lisons à partir du verset 19. Jean chapitre 4, versets 19 à 22. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, c'est-à-dire vous, juifs, nous, nos pères samaritains, ont adoré ici, mais vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, c'est-à-dire nous juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des juifs. Alors, pour expliquer ici ce que ça veut dire que le chemin du salut, Dieu l'a révélé, il en a parlé, et il a confié cette parole qui nous fait connaître le chemin du salut au peuple juif. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé par les juifs, le salut vient des juifs, mais ça veut dire que le chemin du salut a été révélé au milieu d'Israël. Autrement dit, lorsque les peuples étrangers voulaient connaître l'Éternel, ils devaient se rendre auprès d'un Israélite, pieux de préférence, qui lui indique quel est le chemin pour s'approcher de Dieu. Deux derniers textes. Romains chapitre 3. Nos deux textes, pour finir, seront dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 3. Paul vient, dans les chapitres qui précèdent, de démontrer que juifs et non-juifs sont coupables. Pas de favoritisme devant Dieu, parce que Dieu juge selon la justice et selon la vérité, eh bien, les deux, juifs et non-juifs, sont sous la colère de Dieu à cause de l'injustice et de l'impiété de leurs œuvres. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, très régulièrement anticipe un peu les questions de ses lecteurs. Et ici, c'est ce qu'il fait. Quelqu'un se demanderait peut-être, mais Paul, si tu mets sur le même plan juifs et non-juifs en disant que les deux sont sous la colère de Dieu, verset 1 du chapitre 3, quel est donc le privilège du juif? ou quelle est l'utilité de la circoncision? Et lisons la réponse de Paul. Considérable, de toute manière. L'avantage est considérable. Tout d'abord, les oracles de Dieu, c'est-à-dire les révélations de Dieu, la parole de Dieu, ont été confiés aux Juifs. Finissons donc avec le chapitre 9 et le verset 4 et le verset 5. Paul vient de montrer que les Juifs, en rejetant le Christ Jésus, rejettent le plan de Dieu pour le salut dans les chapitres qui précèdent. Et au chapitre 9, il parle de sa peine profonde pour ses compatriotes juifs qui ont rejeté le Christ et qui du coup sont séparés du salut tant qu'ils rejettent le Christ. Et il dit « Je ressens une peine, un chagrin continuel dans le cœur pour mes compatriotes. D'autant plus grand ce chagrin quand il pense au privilège qui était celui d'Israël. » Et nous lisons verset 4 « Les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair, donc dans son humanité, ça veut dire le Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. » Paul ici est en train de rappeler, mais c'est terrible, mon chagrin est d'autant plus grand quand je pense au privilège d'Israël, qui a été d'abord la nation choisie par Dieu, l'adoption, qui a vu la gloire de Dieu dans le temple, la gloire de Dieu se manifester de diverses manières par les miracles à l'époque des prophètes. Les alliances aussi, ces relations, ces contrats, on peut dire, divino-humains, que Dieu passait avec le peuple d'Israël. La loi, la justice, la révélation de ce caractère juste de Dieu. Le culte, la possibilité d'adorer Dieu, de s'approcher de lui. Les promesses diverses et variées, notamment la promesse de l'Esprit Saint. Et il dit, malgré toutes ces choses qui étaient au milieu d'eux, oh, la plupart d'entre eux n'ont pas reconnu le Messie. En tout cas, à la lumière de ces passages, j'espère que vous voyez et qu'il est clair, et il y en aurait d'autres, qu'Israël, en tant que fils de Dieu, était censé être le peuple qui conduit les autres peuples à Dieu, la nation sainte qui instruit les autres nations à la connaissance de Dieu, la communauté d'adorateurs qui détournerait les hommes issus du monde païen loin des faux cultes, des fausses adorations, pour les conduire au vrai culte, loin de l'idolâtrie, à la vraie religion, celle qui est révélée par le Dieu vivant et vrai. La relation d'Israël avec Dieu serait alors, en cas de succès, une invitation aux nations étrangères à entrer en relation avec le Dieu saint, plein de grâce. L'héritage d'Israël ne serait plus seulement le territoire d'Israël, mais serait évidemment étendu au monde entier, puisque, étant en communion avec toutes les nations du monde, la loi de Dieu et la gloire de Dieu rempliraient la terre. Et qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu qui remplit la terre, sinon le paradis dans ce monde? Puisque, qu'est-ce que c'est finalement la loi de Dieu? Le plus grand commandement qui résume cette loi, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le deuxième commandement qui lui est semblable. Mais, vous le savez, l'histoire nous montre, l'expérience nous a montré, que cette mission d'Israël, ce rôle d'Israël a été un échec. Les nations ont-elles eu un modèle parfait de la communion d'un peuple avec le Dieu de l'univers? Qu'a fait Israël de son héritage et de son territoire? Parce que son territoire était un havre de justice, un havre de paix et de piété? Est-ce que la conduite des descendants d'Abraham était un reflet de la conduite et du caractère du Dieu d'Abraham? Est-ce que les peuples, en voyant Israël, ont été amenés à dire, comme nous l'avons lu dans Deutéronome, certainement c'est un peuple sage et intelligent? Et est-ce que les peuples ont désiré dans leur cœur, oh, que votre Dieu soit aussi notre Dieu? La réponse nous est donnée dans les pages des Écritures. Génération après génération, roi après roi, époque après époque, le peuple n'a eu de cesse de provoquer la colère et l'indignation de Dieu. Les prophètes, les uns après les autres, ont été envoyés et avec le même message, revenez à Dieu, revenez de votre infidélité, revenez de votre idolâtrie, revenez de votre cou raide et de votre rébellion profonde devant ce Dieu qui vous a délivré d'Égypte et vous a déployé devant le regard tant de bonté, tant de grâce, tant de promesses. Oh, revenez! Mais Israël, encore et encore, se détournait pour suivre les pratiques des peuples étrangers, pour imiter les cultes païens, pour transgresser la justice, opprimer l'orphelin et la veuve, maltraiter l'étranger, souiller le culte de Dieu, corrompre le culte de Dieu. Et l'un des prophètes qui a été envoyé à Israël, un peu comme un lanceur d'alerte, c'est le prophète Osée dont nous parle l'apôtre Matthieu. Nous y venons. Dans Osée au chapitre 11. Osée, comme l'ensemble des prophètes qui l'ont précédé et suivi, a eu aussi ce rôle d'avertir Israël et de plaider Israël, de revenir à son bon sens en disant « Mais voyez, voyez, de quoi est-ce que vous vous privez ?» Et voyez aussi contre qui vous vous élevez. Et nous lisons dans Osée au chapitre 11, les versets 1 à 7. D'où est tirée, vous allez le voir, la citation que nous avons dans l'Évangile. Quand Israël était jeune, dit Osée de la part de l'Éternel, quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, c'est-à-dire des prophètes, de ceux qui étaient pieux en Israël. Ils ont sacrifié au Baal, aux idoles, aux faux dieux, et offert de l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras, et ils n'ont pas reconnu que je les soignais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché leurs joues. Je leur ai présenté de quoi manger. Et voilà la sanction. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien, à son tour, sera leur roi. Parce qu'ils ont refusé de retourner vers moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira leurs alentours, elle dévorera à cause des desseins qu'ils ont eus, à cause des projets mauvais qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à l'inconstance envers moi. On les appelle vers celui qui est en haut, c'est-à-dire vers l'Éternel, mais aucun d'eux ne se lève ou aucun d'eux ne l'exalte, selon les traductions. Quelle était la situation d'Israël quand le Seigneur Jésus est né? Souvenez-vous les trois aspects de la relation, les trois aspects de la délivrance, relation avec Dieu, héritage et responsabilité. Eh bien, quant à la relation, on peut dire que la communication était un peu rompue. La relation était au point mort, pour ainsi dire, puisque le dernier prophète que Dieu avait été envoyé près de 400 ans auparavant, Malachie. Quand Jésus naît, voilà 4 siècles que l'Éternel n'a plus envoyé de prophète, comme si un point de non-retour avait été atteint. Qu'en est-il de l'héritage à l'époque où Jésus naît? Eh bien, à l'époque où Jésus est né, c'est déjà le quatrième empire étranger qui domine sur le territoire d'Israël. Il y a eu d'abord les Assyriens, comme nous l'avons lu dans Osée, n'est-ce pas? L'Assyrien sera ton roi. Puis l'empire babylonien a dominé sur Israël, a emmené même en captivité une grande partie du peuple. Après l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, qui ont dominé à leur tour et contrôlé finalement le territoire d'Israël jusqu'à un certain point. Et après eux, l'empire gréco-romain, venu soumettre Israël à sa domination. Autrement dit, l'héritage n'est plus tellement entre les mains du peuple. L'héritage aussi lui échappe, comme la relation avec Dieu. Venons-en à la responsabilité, qu'en est-il? Eh bien, à l'époque où Jésus naît, nous le voyons dans les évangiles, l'état spirituel du peuple, l'état moral du peuple est tout à fait décadent. Le peuple a délaissé pour une grande partie de la population cette importance, cette notion, cette responsabilité d'obéir à Dieu et d'être un exemple pour les peuples autour. Et d'ailleurs, c'est cette décadence spirituelle, si vous ne le savez pas, qui va conduire à l'existence, à l'émergence de plusieurs sectes dans le judaïsme, notamment les pharisiens. Ils craignaient que la colère de Dieu continue d'augmenter, et c'est ce qui a fait que plusieurs groupes, voulant purifier le peuple, se sont mis un peu à l'écart. Alors, clairement, ils l'ont fait avec leurs propres moyens, et nous savons que ce n'était pas les moyens de Dieu, mais voilà quelle était l'intention de départ. Nous arrivons bientôt à une conclusion. Est-ce que vous êtes toujours alerte? Ok. Clairement donc, il y a un échec ici. Le Fils de Dieu, que Dieu a délivré de l'esclavage en Égypte, n'a pas agi comme Fils de Dieu. Mais notons bien que cet échec est un échec des hommes et non pas celui de Dieu. Et c'est important de le dire et de le rappeler. On ne va pas le lire, j'avais prévu qu'on le lise, mais je vous le mentionne simplement. Deutéronome chapitre 31, les versets 24 à 29. Moïse déjà avait prévenu le peuple d'Israël en lui disant « Vous ne serez pas capables d'obéir ». Le peuple a quand même voulu faire alliance avec Dieu. Mais Moïse avait expliqué que si de mon vivant déjà, vous êtes aussi rebelles à Dieu, qu'en sera-t-il une fois que je ne serai plus là? Et les Israélites auraient dû prendre ça à cœur et plaider auprès de Dieu et demander « Mais que nous manque-t-il pour ne pas vivre et ne pas voir ce jour que Moïse nous annonce, ce jour où nous aurons fait tellement ton déplaisir ?» que le malheur viendra sur nous et sera à son comble. Ils auraient dû, quelque part, s'humilier, n'est-ce pas, et réaliser que, mais Moïse nous lance un avertissement qui n'est pas petit. Il nous manque certainement quelque chose pour être fidèle à Dieu. Mais ils ne l'ont pas cherché. Et leur faute est effectivement arrivée à son comble. Quand Jésus vient, Dieu s'apprête à mettre fin à l'ancienne alliance. Il envoie son Fils, né sous la loi, afin de sauver ceux qui sont sous la loi et condamnés par la loi. L'incapacité d'Israël à observer les commandements de Dieu, l'incapacité d'Israël à rester fidèle à Dieu, l'incapacité d'Israël à conserver l'héritage de Dieu et à demeurer fils de Dieu, tout cela démontre qu'il était nécessaire que vienne un autre. Vienne un autre fils de Dieu, meilleur qu'Israël, plus excellent qu'Israël, un fils qui serait fidèle aux commandements et aux exigences divines, un fils par lequel vraiment les hommes pourraient voir l'exemple de ce que c'est que s'approcher de Dieu, être en relation harmonieuse avec Dieu, avoir un héritage éternel qui ne périt jamais. Il fallait que vienne le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Nous n'allons pas voir, comme je vous l'ai dit, cette deuxième partie, ce serait trop long, nous la verrons une prochaine fois, mais je vous résume simplement ce que nous verrons. Ce que nous avons vu sur Israël, peut nous enseigner au sujet de la personne de Christ et de sa mission, son rôle. Souvenons-nous qu'il est le fils de David. C'est comme ça que Matthieu commence son évangile. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Eh bien, parce qu'il est le fils de David, ce nouveau fils de Dieu est donc celui qui est en relation avec Dieu pour toujours, une relation indestructible, comme Dieu l'avait promis à David. Parce qu'il est le fils de David, ce nouveau fils de Dieu, nous le verrons, possède un héritage éternel qui ne peut se perdre. Parce qu'il est le fils de David, ce nouveau fils de Dieu est celui qui fait toujours le plaisir de son Père, sans cesse. L'Esprit Saint, il le possède sans aucune mesure. Et ainsi, il accomplit toujours la volonté de Dieu. Souvenons-nous aussi qu'il est le fils d'Abraham, et nous verrons, de ce fait, c'est par lui que la bénédiction promise aux nations nous parvient. Il est le fils d'Abraham, et ainsi ce nouveau fils de Dieu est celui aussi par qui l'héritage éternel nous est accessible. Le pardon, la vie éternelle. Heureux les doux, n'est-ce pas? Car ils hériteront de la terre. C'est par lui que nous apprenons enfin à faire tout le plaisir de Dieu. Il nous faut donc retenir que si autrefois il fallait aller en Israël pour espérer être en relation avec Dieu, ou en tout cas s'approcher d'un Israélite, aujourd'hui c'est par le Christ Jésus. Si autrefois, pour être instruit, pour connaître et savoir comment servir Dieu, il fallait se rendre auprès peut-être d'un Lévite, d'un prêtre, d'un prophète en Israël, aujourd'hui et jusqu'au retour du Christ, c'est par Jésus uniquement que nous pouvons connaître et servir l'Éternel. Qu'est-ce qui a changé? L'heure a changé. Et Jésus l'a dit, n'est-ce pas? L'heure vient. L'heure vient où ce n'est plus sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Le Père cherche ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité, c'est-à-dire en esprit, qui vont au-delà des formes charnelles du culte ancien, qui comprennent spirituellement de quoi il s'agit, et en vérité, c'est-à-dire qui l'adorent non pas de manière extérieure seulement, formelle, mais véritablement de cœur. Terminons avec cette application. Pour nous aujourd'hui, peut-être quelque chose de contemporain. On a vu pour nous individuellement que c'est donc par le Christ que nous nous approchons de Dieu, mais plus collectivement et je dirais en lien avec l'actualité. J'aimerais poser quatre questions et répondre avec quatre réponses courtes. Première question, devrait-on aujourd'hui appeler ou considérer Israël comme le peuple de Dieu? Est-ce juste d'employer cette expression pour la nation d'Israël? Il me semble que les données bibliques nous invitent à dire non. Parce que l'expression « fils de Dieu », lorsqu'elle désigne la nation d'Israël, dans le livre de l'Exode, elle est utilisée comme un synonyme de « peuple de Dieu ». Je le montre simplement. Dieu dit à Moïse, « Va vers le Pharaon et dis-lui, laisse partir mon fils ». Moïse se rend devant le Pharaon et dit, « Pharaon, Dieu te dit, laisse partir mon peuple. » Autrement dit, donc, si nous disons qu'Israël est le peuple de Dieu, nous disons qu'Israël, dans un sens, est le fils de Dieu. Mais nous l'avons vu, il y a un nouveau fils, un autre que Dieu a fait sortir d'Égypte, le Christ Jésus, qui est le Fils unique de Dieu. Autre question liée à cela. Peut-on dire aujourd'hui que la Palestine, le territoire, est encore l'héritage d'Israël, écoutez bien, de droit divin? Je précise pour dire qu'il y a une distinction, et je ne m'intéresse pas ce matin au droit, disons, humain, au droit politique, qui a sa part, sa légitimité dans son domaine, mais nous nous intéressons ici au regard de Dieu, car c'est son regard qui comptera et qui compte concernant les nations, et concernant nos vies. Alors, est-ce que Israël, aujourd'hui, est légitime s'il dit, de droit divin, nous avons ce territoire? Eh bien, j'avoue très sincèrement devant vous que j'ai longtemps pensé plutôt oui. Ma réponse aujourd'hui est différente, pour la raison suivante. Si nous disons que Israël, de droit divin, aujourd'hui, devrait posséder la Palestine, eh bien, nous devrions aussi dire qu'Israël est en communion avec Dieu et qu'Israël est donc en train de faire la volonté de Dieu en alliance avec Dieu. Souvenez-vous, la promesse faite à Abraham par rapport à ses descendants, c'est un package. Dieu n'a pas dit « je donnerai ou bien la terre, ou bien la relation avec Israël, ou bien mes commandements », mais tout ça va ensemble. Or, depuis l'an 70, il n'y a plus de temple. Et donc, il est impossible en Israël de rendre un culte selon l'ancienne alliance, car la quasi-totalité du culte, de la piété ancienne, reposait sur le temple, sur les sacrifices, sur les rituels de purification. Israël ne peut plus rendre un culte, Israël n'est plus en communion non plus avec Dieu, en tant que nation. Paul est très clair dessus, dans Romains chapitre 11. Et donc, si Israël ne peut plus obéir au terme de l'ancienne alliance, c'est illégitime de dire que Israël possède les avantages et les privilèges de l'ancienne alliance. En disant cela, je ne me projette pas sur la toute fin des temps. C'est deux choses différentes. Je parle d'aujourd'hui. Troisième et avant-dernière question. Devrions-nous, en tant que chrétiens, soutenir Israël dans le conflit actuel? Beaucoup le pensent, ici et ailleurs, en particulier dans le monde anglo-saxon, mais pas uniquement. Et je crois même, je pourrais dire, probablement la majorité des chrétiens évangéliques en particulier le pensent. Je dirais ceci, je crois que notre soutien indéfectible, notre soutien sans faille devrait aller en priorité à tous les enfants de Dieu dans ce monde qui sont du coup notre famille, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient gazaouis arabes. Et c'est cette priorité, si nous l'avons en tête, qui nous gardera, je crois, de beaucoup de déclarations hâtives, beaucoup de... d'attitudes et de choix et de paroles qui manquent de sagesse et de tempérance. Souvenons-nous, si nous sommes chrétiens, nous appartenons à un royaume d'un autre monde. Nous ne sommes plus citoyens de ce monde, mais du royaume de Dieu. Et nous n'avons pas, du coup, à prendre parti comme si nous étions encore tout à fait de ce monde. Qui, d'ailleurs, a dit qu'il fallait prendre parti? Faut-il vraiment? Et je nous invite du coup en tant que chrétiens à ne jamais oublier que nous sommes d'abord membres d'un peuple spirituel qui comprend à la fois des Israélites, des Juifs, et aussi des Arabes, et des hommes et des femmes issus de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues. Enfin, dernière question. Qu'en est-il du salut d'Israël? Bien, je crois que l'apôtre Paul enseigne ceci, et d'autres promesses aussi, qu'à la toute fin des temps, dans les tout derniers jours, Dieu va agir d'une manière spectaculaire au milieu du peuple juif pour les réveiller et leur faire réaliser qu'ils ont rejeté leur Messie. Et il va ramener massivement des Israélites à la foi biblique en l'Évangile. Ils reconnaîtront que Jésus est effectivement le Fils de Dieu, venu pour sauver les pécheurs. En attendant ce moment, qu'il arrive d'ailleurs ou non, parce que tous les chrétiens ne sont pas forcément d'accord sur l'interprétation de ces prophéties de Paul, mais quoi qu'il en soit, nous devrions avoir envers les Juifs le même empressement qu'envers les non-Juifs pour leur annoncer les vertus de Jésus-Christ. Oh, c'est lui que nous devrions exalter. Pas une nation, pas un peuple, pas une idée politique avant tout, mais Jésus, le Seigneur choisi par Dieu pour régner sur les nations. Jésus-Christ, le seul Fils de Dieu unique qui vient sauver les pécheurs et leur donner la grâce d'être adoptés par Dieu et devenir enfants de Dieu. Oh, prêchons-le, au près comme au loin. Prêchons-le aux Juifs comme aux non-Juifs. Prêchons-le encore et encore. Amen.